Je disais donc que j'aime à donner un titre aux exhortations que Dieu me donne de présenter devant vous. Comme ça, quand je les relis plus tard, je sais tout de suite de quoi on parle. Et ce matin, j'ai décidé de donner également un titre. Et ce titre, c'est une réponse, finalement. C'est la réponse que Dieu a pour nous dans beaucoup de situations. La réponse de Dieu à beaucoup de nos prières, à beaucoup de nos souffrances, à beaucoup de nos questions, beaucoup de nos chants, beaucoup de nos comportements dans nos vies. En somme, dans la relation qu'il a avec nous, c'est ce qu'il nous répond la plupart du temps. Et cette exhortation s'intitule « Oui, mais moi je t'aime ». Alors, on va encore parler d'amour ce matin. On va encore parler de l'amour que Dieu a pour nous, encore parler de l'amour que nous devons les uns pour les autres. Mais en somme, frères et sœurs, c'est ce qui est le plus important dans nos vies. Alors c'est important d'en parler. Alors, en tant que chrétien, on trouve difficile, bien sûr, de pratiquer ce commandement d'amour. Beaucoup parmi nous trouvent difficile d'aimer les autres. Mais pour le chrétien, vous le savez, l'amour, c'est un commandement. C'est un commandement. Vous savez, j'ai eu la chance de pouvoir réserver un voyage pour mes vacances avec mon épouse. Et pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire ceci, on vous demande quelle option. Vous savez, un déjeuner simple, demi-pension, ou all-inclusive, j'entends. Alors, vous savez que notre Seigneur nous demande d'aimer en all-inclusive, c'est-à-dire tout compris. Tout compris, c'est un ordre, ce n'est pas une option. Et c'est un ordre qui n'est pas une contrainte, qui n'est pas quelque chose où nous allons devoir nous forcer. C'est un ordre qui est divinement logique, divinement logique. Alors, ce n'est pas une option. Dieu ne nous demande pas d'aimer quand tout va bien. Dieu ne nous demande pas d'aimer simplement quand l'autre nous aime, mais Dieu nous demande d'aimer dans les contraintes. Dieu nous demande d'aimer dans les querelles, dans les conflits, dans les souffrances, dans les épreuves. Dieu demande d'aimer nos ennemis. Dieu demande d'aimer ceux qui nous insultent. C'est du tout compris. Et si vous faites ça, vous avez tout compris. Genoux. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. On trouve ceci dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce petit bout de phrase qui nous ennuie la plupart du temps. « Comme je vous ai aimé. » Voilà peut-être notre problème. Pouvons-nous aimer nos frères et nos sœurs, pouvons-nous aimer nos prochains comme Jésus nous a aimés, si nous ne savons pas comment Jésus nous a aimés? Si nous n'avons jamais expérimenté cet amour, comment le pouvons-nous? Alors c'est pourquoi j'aimerais que ce matin on puisse regarder les Écritures, jeter un regard sur la façon dont Dieu nous a aimés par Jésus-Christ, répondre ou appréhender cette question « Combien Dieu nous aime ?» Essayer de quantifier ça. Lui qui est si grand, lui qui est si parfait, nous qui sommes si petits et si rebelles, comment fait-il pour nous aimer alors que bien souvent nous le méprisons, bien souvent nous l'ignorons? Il y a quelques semaines, il y a quelque chose qui m'a fait assez mal, je vous le dis de façon un peu émue, quand mon papy a posé la question « Qui lit sa Bible tous les jours ?» Et au vu de son regard, je l'ai vu aussi attristé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Comment fait-il pour nous ignorer? Comment fait-il, pardon, pour nous aimer alors que nous, nous l'ignorons? Nous, nous le méprisons la plupart du temps. Et frères et sœurs, quand on découvrira cet amour, quand on découvrira combien il nous aime, alors nous apprendrons comment nous aimer les uns les autres. Nous nous devons, entre frères et sœurs, et avec nos prochains, le même amour que Dieu a eu pour nous. Alors, il y a beaucoup de passages dans les Écritures, s'en est rempli. La Bible est une histoire d'amour, où on pourrait regarder l'amour de Dieu et essayer de le comprendre, comprendre l'amour de Dieu pour nous. Mais je voudrais en prendre un qui m'a particulièrement touché ces dernières semaines. Et comme Karl l'a rappelé, j'espère que vous avez pu le lire également cette semaine, c'est cette épître aux Colossiens. Beaucoup d'enseignements à retenir de cette épître, bien sûr, on ne va pas en faire un survol. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble le chapitre 2 de l'épître de Colossiens, qui est un peu le sommet, l'acmé de cette épître, l'épître qu'on dit épître de la maturité pour Paul. De Colossiens, chapitre donc 2, bien sûr, versets 13-14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Alors, savez-vous quand Dieu a commencé à vous aimer ? La réponse est dans ces deux versets. Quand vous étiez mort. Quand vous étiez mort. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à nous aimer. Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quand vous étiez mort. Quel drôle de moment pour commencer à aimer, n'est-ce pas ? La mort, la phase de la vie la moins attirante, la plus démunie de la vie d'un être humain, synonyme souvent d'une puanteur horrible. De plus, frères et sœurs, dans cette mort-là, nous n'étions pas morts d'une mort de héros ou d'une belle mort dans notre vieillesse après avoir vécu une vie pleine pour Christ, une vie qui plaisait à Dieu. Mais non, nous étions morts, l'Écriture nous le dit, dans nos transgressions, dans l'incirconcision de notre chair. Ainsi, il ne s'agit pas ici de l'image d'un mort couché dans un beau cercueil, d'un mort vêtu de soie, bien pomponné. Non, il s'agit ici d'un cadavre dans la boue, couché au milieu des ordures et de la saleté. Et c'est à ce moment-là que Dieu est venu vers vous. Peut-être vous vous considérez encore comme cela. Peut-être que le Christ, vous n'avez pas encore accepté Christ et qu'il ne vous a pas encore racheté. Et vous êtes dans ce cas-là. Mais si vous avez accepté le Christ, vous n'êtes plus ce cadavre. Cela dit, lorsqu'il a commencé à vous aimer, vous étiez ce cadavre puant. Mais même alors que nous étions si peu attirants, Dieu nous a aimés. Il n'a pas aimé une personne bien portante, attirante, portant sa Bible sous le coude, ou un dictaphone pour enregistrer les sermons, c'est le cas de le dire. Il a aimé un cadavre dans toute sa saleté. Voilà la réponse qu'il nous donne. Oui, mais moi je t'aime. Alors, j'ai écrit sur ma feuille, je me suis demandé un jour, c'est pas un jour, c'est quasiment tous les jours de ma vie, pourquoi est-ce que Dieu m'aime ? Est-ce que vous êtes vraiment posé cette question-là, en profondeur ? Moi, si désobéissant, si rebelle, si peu reconnaissant envers Dieu, si perfide, si enclin à chuter, pourquoi est-ce que Dieu m'aime ? Pourquoi est-ce que Dieu a commencé à m'aimer ? Et j'ai eu un élément de réponse lors d'une consultation que j'ai faite il y a quelques années. Je vous dépeins un peu le tableau. Je recevais avec son père un patient qui était très mal, enclin à plusieurs addictions. Il était alcoolique, cocaïnomane, héroïnomane, consommait du cannabis. Un jeune homme, 25-30 ans, accompagné de son père. Lui, ce patient, ce jeune, si désobéissant, si rebelle, si peu reconnaissant envers son père, si perfide, si enclin à rechuter. Et je l'ai suivi comme ça sur quelques mois, plusieurs consultations. Et franchement, alors c'est pas très bien de ma part, mais je me suis souvent dit, ce type-là, c'est un cas complètement désespéré, désespérant. Mais son père a toujours été là. À chaque consultation, il était là. Il l'a accompagné lors de son suivi. Je savais qu'il essuyait ses agressions verbales de son fils, verbales et physiques, sans bien sûr lui retourner d'autre que de l'amour. Et un jour, j'ai été un peu pris de compassion pour ce père qui accompagner son fils. Et bien souvent, je voyais le fils seul, puis ensuite avec le père. Et cette fois-ci, j'ai demandé au fils de sortir pour ne plus voir que le père. Et je lui ai dit, je ne vais pas vous garder longtemps, mais je voulais simplement vous dire qu'après toutes ces semaines de suivi, j'étais admiratif pour ce que vous faites pour votre fils. Vous avez tant d'amour pour lui. Et ce père, qui était quelqu'un de très simple, avec une condition très simple, m'a répondu, je suis son père, il est mon fils, comment pourrait-il en être autrement? Je ne peux pas faire autrement que de l'aimer. Ce père n'aimait pas son fils pour ce qu'il faisait, mais parce qu'il était son père et que lui, c'était son fils. Alors, je me projette un petit peu et j'appelle les parents dans la salle, il y en a quelques-uns. Pour vos enfants, j'imagine que c'est le cas, vous les aimez parce qu'ils sont vos enfants, n'est-ce pas? Ils font parfois de vilaines choses, parfois ou souvent, mais vous les aimez quand même. Ils renversent leur lait sur le tapis, ils écrivent sur les murs, ils se tiennent mal quand vous avez de la visite, mais vous les aimez quand même. Vous leur apportez cette réponse, « Oui, mais moi je t'aime. » Il n'y a pas de mystère quant à votre amour pour eux. Vous les aimez parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Aussi, ne soyons pas surpris que Dieu nous aime. Nous lui appartenons et il nous aime en dépit de tout. Il nous apporte cette réponse en tout temps. Oui, mais moi, je t'aime. Une fois qu'on réalise cela, on peut simplement appréhender l'amour que nous nous devons les uns aux autres. C'est ainsi que Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Pas parce que l'autre est bon, pas parce qu'il est juste. Peut-être l'est-il, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut l'aimer. Pas parce qu'il est agréable, pas parce qu'il ou elle vous ressemble ou que vous avez des atomes crochus, pas parce que vous avez le même âge, les mêmes centres d'intérêt ou une affinité particulière avec lui, mais parce que nous sommes frères et sœurs. Soyons habités par ce sentiment d'amour et de compassion qui est en Dieu et qu'il a pour nous, non pas parce que nous faisons ou pour ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, mais parce que nous sommes de la même famille. Et qu'il est divinement logique d'aimer son père, divinement logique d'aimer sa sœur, son frère ou son prochain. Alors encore une fois, pour les parents, je suis certain de la réponse, je vais donc poser une question tout à fait rhétorique. Vous est-il déjà arrivé de vous mettre en colère contre vos enfants? Bien sûr, et plusieurs fois. Eh bien, à Dieu aussi, ça lui est arrivé. Vous le savez, plusieurs fois. Et il s'est mis tellement en colère un jour qu'il a même regretté d'avoir créé les êtres humains. Il a regretté d'avoir créé les hommes et il a envoyé un premier déluge. Un premier déluge qui en a éliminé la plupart du temps de Noé, bien sûr. Et on a tous vu cela également chez des parents. Des parents qui vont chercher leurs enfants au commissariat parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont trafiqué. Et sur le moment, ils peuvent dire « Je regrette d'avoir eu cet enfant ». Mais plus tard, ils voient leur enfant changer sous un autre angle. Alors, ils ne regrettent plus de leur avoir donné naissance. Et c'est la même chose pour Dieu. Alors, j'en ai vu sourciller plus d'un lorsque j'ai dit « premier déluge ». Peut-être vous dites qu'il ne connaît pas bien sa Bible. Mais un autre jour, Dieu a envoyé un second déluge. Vous me voyez venir avec mes grands souliers. Ce déluge apporta une fois pour toutes la solution au problème que lui posaient ses enfants. Un déluge, non pas d'eau, mais de sang, s'écoulant de Jésus-Christ sur la croix. Le plan de Dieu était de mettre tout le monde en Christ sur cette croix. Au point que Paul l'a dit lui-même, « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis », au chapitre 2 de Galates, au verset 20. Et il le redit en 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 14, « Un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » Alors, j'aimerais à présent vous exposer quelques idées qui sont d'une simplicité, d'une logique divine. Mais est-ce qu'on s'en rend bien compte de ces choses? Jésus n'est pas mort pour lui-même, vous le savez. Il n'avait pas besoin de mourir et de renaître à nouveau, si c'était que pour lui-même, vous le savez.
Il n'avait pas besoin d'être sauvé non plus. Personne ne devait mourir pour Jésus, à la place de Jésus. Il n'avait pas de péché à payer, parce qu'il était né et avait vécu sans péché. C'est pourquoi il pouvait être l'agneau de Dieu, sans défaut. S'il avait été pécheur lui-même, il n'aurait pas pu payer pour nos péchés. Sa mort donc était pour nous, pécheurs, non pas pour lui. Et là, sa réponse a été de nous dire, non pas pour moi, mais pour toi, oui, et moi je t'aime. La croix était une façon, vous savez, j'ai écrit commune, peut-être pas commune, mais beaucoup de personnes ont été crucifiées, vous le savez, à l'époque, peut-être des dizaines de milliers. Beaucoup d'entre eux ont peut-être été condamnés d'un crime qu'ils n'avaient pas commis. Ils sont morts en martyrs. Ce qui faisait la différence avec la mort de Jésus en croix était que, du point de vue du Père, il n'y avait pas que Jésus sur cette croix. Il n'y avait pas que Jésus qui mourait là. C'était vous, et c'était moi qui étions là aussi, sur cette croix. C'est pour cette raison qu'il a tourné le dos à son propre Fils. Jésus s'était identifié avec la totalité de la race humaine. Il était devenu le péché personnifié. Vous savez, j'ai cette conviction que la mort physique de Jésus était une souffrance terrible, mais peut-être la souffrance la plus terrible qu'il a dû endurer, c'était de se voir personnifié en péché, de prendre tous les péchés. Celui qui était sans péché était fait péché pour nous. Jésus a volontairement pris notre place, prenant sur lui notre état de péché. Aux yeux de Dieu, il était coupable, bien qu'étant lui-même innocent. Et c'est très important de comprendre ça. Je ne sais pas ce que vous faites, c'est toujours une question que j'aime bien poser aux gens. Qu'est-ce que vous faites pendant le repas du Seigneur lorsque vous êtes assis, que vous prenez le pain, le vin? Alors moi, je vais vous raconter ce que je fais. Je pense à Jésus-Christ, je regarde à la croix, je me transporte à Golgotha et je regarde le Christ. Je regarde le Christ. Mais je crois que si je ne fais que cela, je suis dans l'erreur. Si on regarde à la croix et que on voit Jésus-Christ qui est pendu là, les épines enfoncées dans sa tête, le sang qui coule de son corps, et qu'on se dit simplement, c'est déjà bien, mais qu'on se dit uniquement « Oh, pauvre Jésus !» C'est un bon sentiment, n'est-ce pas, de dire ça, je le pense. Mais si on ne fait que ça, on ne fait que regarder un martyr. Maintenant, si vous regardez à la croix et que par la foi, vous y voyez ce que Dieu y a mis, au travers de Jésus, bien sûr, eh bien, vous ne verrez pas que Jésus, vous allez vous voir vous. Et lorsque vous voyez vous-même sur la croix, c'est à ce moment-là que Jésus devient votre sauveur. Mon père me dit souvent, essaye d'être encourageant dans tes exhortations. J'ai souvent l'habitude de faire un petit peu, d'agression ou quoi que ce soit, de remuer tout ça. Mais je crois que c'est important de comprendre que c'était nous le problème. C'est vous qui étiez le problème que Dieu voulait solutionner. Et cette fois-ci, personne n'a échappé, pas même Noé. Depuis le premier être dans le jardin d'Éden jusqu'au dernier qui n'est pas encore né, tous ont été mis en croix. Vous et moi, on n'était pas encore nés, je crois pas, quand la croix a eu lieu, mais nous y étions parce qu'elle comprend toute la race de l'humanité déchue. Et c'est le deuxième déluge où Dieu en a fini avec tout le monde. C'est dur comme parole, n'est-ce pas ? Dieu en a fini avec tout le monde. Vous savez, juste avant de mourir, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et certains traducteurs disent que littéralement, bien sûr, c'est une bonne traduction, mais on est plus dans « C'est achevé » plutôt que « Tout est accompli ». C'est un petit peu la même chose, mais « C'est achevé ». Eh bien, je crois que c'est cela, ce qui s'est passé à la croix. Jean-Simon Guillot était achevé. C'était moi le problème. C'était pas Jésus, c'était moi le problème. Jean-Simon Guillot. Et à ce problème, Jésus-Christ a répondu. Il a dit « Oui, mais moi je t'aime ». Et Dieu a éliminé ce problème en me mettant à mort sur la croix. Il a achevé le problème que vous étiez aussi, pourvu que vous l'acceptiez dans votre vie. Et si on s'arrêtait là, ce serait terrible, bien sûr. Mais si nous nous identifions dans la mort de Christ, bien sûr, nous étions aussi là quand il est ressuscité. Nous y étions quand il est mort, et nous y étions aussi quand il est ressuscité. Et de sorte que je dis « je suis mort en Christ », je dis aussi « je ressuscite en lui et je vis par lui ». Il y a au ciel, c'est une image qu'on aime bien prendre, moi j'aime bien cette image, un dossier personnel pour chaque personne qui n'est jamais vécue. Il y a le vôtre, hein, probablement, c'est même sûr. Et à la première page de mon dossier, on trouve l'inscription, il y a mon nom, il y a votre nom sur votre dossier, Jean-Simon Guillot, né le 18 septembre 1987, 62 764 cheveux sur sa tête, enfin du moins à 26 ans, ça va peut-être chuter après, 32 grains de beauté, etc. En somme, tous les détails, les moindres détails me concernant. Ça, c'est la première page. À la deuxième page, on y retrouve les lois de Dieu. Alors, il y en a beaucoup. On peut y retrouver particulièrement les 10 commandements, le commandement d'amour que nous avons lu. Et ensuite, il y a des pages prévues pour y faire figurer la mention chaque fois que je transgresse un commandement. Je peux vous dire, je crois qu'on est tous un peu dans ce bateau-là, le dossier est épais, n'est-ce pas ? Le dossier est très épais. Enfin, en quatrième de couverture, on y trouve un certificat de dette. On peut y lire « Compte tenu du fait que Jean-Simon Guillot a transgressé le premier commandement 8322 fois, c'est probablement pas assez, hein. Le second 5426 fois, le troisième 1009 fois, etc. » Jean-Simon Guillot est condamné à aller tout droit en enfer. Voilà la réalité spirituelle sans Jésus-Christ. Jésus-Christ nous répond « Oui, mais moi je t'aime. » Parce que je suis mort avec lui, Jésus a sorti mon dossier. Il a pris un grand cachet qu'il a trempé dans son sang et oblitéré chaque page de mon dossier avec la mention « Annulée ». Puis il a carrément pris mon dossier pour ne pas encombrer le ciel. Et afin que personne ne puisse le voir, ni même le retrouver, il a trouvé un endroit des plus sûrs. L'endroit le plus sûr qu'il ait trouvé fut sa croix, où il le cloua. Et frères et sœurs, si quelqu'un veut aller voir mon dossier, il va falloir passer au-dessus du corps de mon Sauveur. Ainsi, Dieu va consulter les archives du ciel au jour du jugement et il dira « Accusez Jean-Simon Guillot, voyons votre dossier. » Et puis là, j'imagine, on a tous, je crois, été stagiaires. Il y a un stagiaire ange qui va aller chercher le dossier dans les archives. On s'est tous retrouvés dans la situation, on n'a pas trouvé le dossier. On regagne le lieu où Dieu est, tout penaud, en disant « J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé son dossier. Je n'ai pas trouvé son dossier. » Eh bien, c'est qu'il n'y a rien contre lui, nous dira Dieu. Quel serviteur ! Dieu soit loué, c'est ainsi que notre Seigneur, notre Dieu nous aime. C'est ainsi qu'il nous aime, vous et moi. Alors, vous avez remarqué, hein, dans cette exhortation, à chaque fois on parle de l'amour que Dieu a pour nous, bien sûr, il faut le pratiquer maintenant, cet amour envers nos frères, nos sœurs, envers nos prochains. Et de même que Dieu a annulé notre dossier, nous aussi, nous devons annuler les dossiers que nous avons sur nos frères et sœurs. Il y en a aussi beaucoup. Vidons nos archives des rancœurs et litiges non pardonnés de nos frères et de nos sœurs, comme Jésus l'a fait pour nous. Aimez-les comme Jésus nous a aimés. Alors, vous savez, je ne l'ai pas écrit, ça, ce que je vais vous dire, ça me vient comme ça. Depuis le début, je nous encourage à aimer, à nous aimer les uns les autres. Et en préparant cette exhortation, je me suis aperçu que, oui, il y a des gens que j'aime, que je pense bien aimer, pas suffisamment probablement, mais j'essaie de les aimer parce que c'est facile pour moi de les aimer. Et il y a d'autres personnes dans cette assemblée que je n'aime pas. Pas que je les haïsse, je ne les méprise pas non plus, mais je ne les aime pas suffisamment. J'ai de la sympathie peut-être pour eux. Je leur dis bonjour, je leur dis au revoir, je leur souris, mais je ne les aime pas. Croyez-vous que Jésus-Christ a cet amour-là pour moi, pour vous? Je ne crois pas. Ayons l'amour que Dieu, que Jésus-Christ nous a donné les uns pour les autres. On va parler de quelqu'un, paradoxalement, que je n'aime pas beaucoup, mais qui est très présent dans ma vie, c'est Satan. Et Satan, il connaît bien l'être humain, c'est lui qui l'a fait chuter la première fois, et toutes les autres derrière. Et il sait combien on se sent facilement condamné. Alors, il ne tarde pas à nous faire voir les œuvres qu'on a faites dans nos vies. Et afin de nous tromper, il a fait un truc vraiment qui lui est propre. Il nous trompe. Et il a pris notre dossier, vous savez. Mais avant que Jésus-Christ n'annule toutes les pages et qu'il le cloue sur sa croix, il en a fait des photocopies. Alors, ça n'en fait pas quelque chose de valeur, ces photocopies-là, qui sont, je vous le rappelle, toutes ces pages avec les commandements que j'ai transgressés et qui n'ont pas été annulés par le sang de Jésus-Christ. Il en a fait des photocopies, et du coup, ça en fait des faux, puisqu'ils ne sont plus réels, ces photocopies-là. Ce sont des faux, elles n'ont aucune valeur, mais il s'en sert pour nous tromper. Alors, soit personnellement, il nous montre notre dossier. Regarde, t'es encore tombé, t'es vraiment à moins que rien. Peut-être encore plus pervers, il nous montre les dossiers des uns des autres. Soit en prenant mon dossier et en vous le montrant. Regarde de lui en train de parler ce matin. Il n'est pas mieux que moi. Hein. Regarde ce qu'il a fait. Et en prenant le vôtre et en me le montrant, et comme ça, c'est un cercle vicieux. Et on se juge les uns les autres. Et on a de la peine à appliquer cet amour que Dieu nous commande et que nous devons avoir les uns pour les autres. Alors, ce personnage qu'est Satan, il est si rusé. Mais grâce à Dieu, j'ai l'impression qu'avec l'aide de son esprit, il a de moins en moins de facilité à me tromper. Voilà pourquoi je sais que mon Rédempteur vit. Et je sais que je suis mort en Christ, que je suis ressuscité en lui et que je vis par lui. C'est comme ça que je veux vivre maintenant. Je vis pour lui, je vis par lui. Et à présent, je m'adresse à vous, je veux vous aimer comme si vous étiez mes enfants, qui gribouillent mon mur que je viens de repeindre, qui me dérangent par vos bavardages pendant le culte, qui me découragent par votre absence à nos réunions. Je veux vous aimer parce que bien souvent j'ai fait la même chose à mon Seigneur. Et que lui m'a répondu, oui. Mais moi, je t'aime. Je veux vous aimer comme il m'a aimé parce que vous êtes mes frères et sœurs. Et je ne veux pas sélectionner parmi vous les gens que je veux aimer en disant « Lui mérite mon attention, mon amour, ma présence. » Et lui, il y a d'autres personnes dans l'église. Hein, il trouvera d'autres personnes pour se faire aimer. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas mes frères et sœurs suffisamment. Il y a quelques années, en me demandant un jour à propos d'une personne qui fréquentait l'église depuis 2-3 mois, comment elle s'appelait. Je ne savais même pas comment elle s'appelait, cette personne-là. C'est grave, n'est-ce pas? De ne même pas s'intéresser à nos frères et nos sœurs. Ça voulait dire que, à cette personne-là, je ne lui avais probablement jamais dit plus que bonjour ou au revoir. Le Seigneur ne se contente pas, Dieu soit loué, de me dire juste bonjour ou au revoir. Alors, est-ce qu'on applique ce commandement d'aimer comme Jésus nous a aimés? Bien souvent, non. Mais, je ne veux entendre personne me dire que c'est impossible, ou que c'est quasiment impossible de faire cela. Peut-être vous l'avez pensé, n'est-ce pas? En disant cela, c'est sûr que ça va être plus difficile. Mais en ayant confiance que rien n'est impossible à Dieu, et que Dieu est en nous par son esprit, c'est possible. Par la foi, frères et sœurs, notre foi est-elle si petite? Alors, pas du jour au lendemain, on n'y arrivera pas comme ça du jour au lendemain, mais de gloire en gloire, comme nous le dit l'apôtre Paul, en progressant sur le chemin de la sanctification, petit à petit, aimer de plus en plus. J'en termine bientôt, rassurez-vous. Et je veux dire ceci à présent à mon prochain. Je veux aimer mon prochain qui se moque de ma foi, qui me prend pour un illuminé quand je parle de Dieu. Je veux aimer mon prochain qui m'a fait tomber, qui m'a insulté, qui m'a blessé. Je veux faire ça parce que Jésus m'a aimé alors que je n'étais qu'un cadavre au milieu de la saleté. Et je ne méprise pas mon prochain qui refuse Christ en me disant « Pour lui, c'est peine perdue, moi je suis sauvé, lui est perdu, tant pis pour lui. » Car, frères et sœurs, si Jésus-Christ avait dit cela de moi, je n'aurais pas le bonheur de connaître sa grâce. Christ, dans son amour, veut que tous soient sauvés, et nous, dans notre amour microscopique, on sélectionne en disant « Lui, c'est un bon candidat pour la grâce, je vais aller lui parler. » Et l'autre, c'est un cas désespéré. Alors j'en termine par là. Une fois que nous comprenons la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, on sera capable, par l'Esprit, de nous aimer et de nous accepter nous-mêmes. Et une fois cela fait, nous serons capables de nous aimer les uns les autres. Ce ne sera pas une lutte, ce ne sera pas un effort. Cela viendra facilement, pourvu que vous laissiez Dieu dans votre vie agir. Et ça ne sera pas, comme je disais, une lutte ou un effort, ça sera divinement logique, comme un père aime ses enfants. Ce sera alors dans votre vie cette réponse que vous direz à chaque fois, « Oui, mais moi je t'aime. » Puisque Jésus qui est amour vit en vous, vous ne réussirez pas à vous en empêcher, à vous empêcher d'aimer. Alors voici la réponse qui doit émaner de nos comportements envers Dieu et envers nos frères et nos sœurs. Nos prochains. Oui, mais moi, je t'aime. Dieu soit loué pour son amour sans limite. Amen.